En votre compagnie, Idrissa Seloudia, pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, bonjour. En République démocratique du Congo, des policiers des Nations Unies protègent de nouveau depuis mercredi la clinique Panzi du docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix avait signalé fin juillet des menaces contre lui et ses proches après avoir dénoncé un massacre de civils au sud Kivu. Quelques jours plus tôt, le docteur Mukwege, directeur de cette clinique qui soigne des femmes victimes de violences sexuelles dans sa province, vit sur les lieux depuis qu'il a échappé à un attentat visant son domicile en 2012. RDC toujours, l'ancien gouverneur de la province du Kasaï, Alphonse Ngoï Kasanji, un sénateur proche de l'ancien président Joseph Kabila, a ravivé mercredi les tensions entre les camps de ce dernier et de son successeur Félix Tshisekedi en avançant l'idée d'une élection du chef de l'État par le Parlement. Ce projet favorise la corruption, comme lors de l'élection des sénateurs et des gouverneurs des provinces, a réagi Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi. Au Mali, les militaires au pouvoir réunissent à nouveau ce jeudi des centaines d'acteurs nationaux pour tenter de baliser la voie de l'après-putsch sous la double pression des forces intérieures et d'une communauté internationale aux vues divergentes. Quelques 500 participants, responsables de partis, de syndicats, d'organisations de la société civile, sont attendus à partir de jeudi matin et jusqu'à samedi à ces journées de concertation nationale au Centre international de conférence de Bamako. Par ailleurs, 4 soldats maliens ont été tués mercredi dans une attaque dans le centre du Mali, l'un des principaux foyers des violences qui ensanglantent depuis des années ce pays en guerre. Selon des sources sécuritaires, l'attaque est survenue près d'Alatona, non loin de Niono. Elle n'a pas été attribuée, mais le centre du Mali est le théâtre d'attaques djihadistes, de violences intercommunautaires et de différents trafics. Plus de 1000 soldats ouest-africains de l'ECOMIB, déployés depuis 8 ans en Guinée-Bissau pour stabiliser ce pays après un coup d'État militaire, ont commencé à quitter la Guinée-Bissau alors que leur mission prend fin officiellement jeudi, a-t-on appris mercredi de sources officielles. Au Libéria, le président George Weah a appelé à durcir les lois du Libéria face à la recrudescence des viols qu'il décrit comme une épidémie lors de la première conférence nationale sur la question mardi et mercredi. La conférence de deux jours, ouverte mardi par M. Weah, s'est poursuivie mercredi en présence de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, de représentants d'organisations féminines, de l'ONU et de chefs traditionnels. Le pays est depuis quelques semaines le théâtre d'une mobilisation des Libériennes face aux viols, mais aussi de protestations contre l'inaction reprochée au gouvernement et au président Weah. Le seuil des 900 000 morts du COVID-19 a été franchi dans la nuit de mercredi à jeudi, au moment où les essais cliniques de vaccins se multiplient comme au Brésil et au Pérou ou encore aux États-Unis, en Russie et en Chine, qui veulent tous être les premiers à disposer d'un vaccin avant même la fin de l'année. Selon un comptage réalisé par l'AFP mercredi, 900 052 décès ont été recensés dans le monde depuis l'apparition des premiers cas en Chine en décembre. Vendredi 11 septembre, cela fera 6 mois, jour pour jour, que le 11 mars, l'OMS qualifiait le COVID-19 de pandémie, une annonce suivie de confinement et de coups d'arrêt à l'économie mondiale. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC.
La suite de nos informations. En Guinée, le collectif qui conteste depuis des mois la candidature du président Alpha Condé en troisième mandat est encore plus divisé à l'approche de la présidentielle. Le FNDC a mis à l'écart l'un de ses chefs, Seloud Alain Diallo, qui a choisi de participer au scrutin plutôt que de le boycotter. Le point avec Nani Talani.
Le Front national de défense de la Constitution, collectif de partis, syndicats et organisations de la société civile, minimise la cassure. Il parle de retrait volontaire de Seloud Alain Diallo et des autres responsables des partis qui ont décidé de participer au scrutin du 18 octobre, présenté par le Front comme dénué de légitimité. Exclusion ou retrait, la cassure survient le jour même où la Cour constitutionnelle a validé 12 des 13 dossiers de candidature qui avaient été déposés, dont ceux d'Alpha Condé et de Seloud Alain Diallo, son principal challenger depuis 2010. Monsieur Condé, 82 ans, après avoir entretenu le suspense, a annoncé au début du mois qu'il est candidat à sa propre succession. Seloud Alain Diallo a dit dimanche avoir dû trancher un dilemme entre boycotter ou participer à l'élection. Pour Abdourahmane Sano, coordinateur du collectif, le FNDC prend acte de la décision de Seloud de prendre part à une mascarade électorale.
Au Niger, 67 personnes sont mortes du fait des inondations de ces derniers jours, selon les autorités. Les fortes précipitations et la montée du niveau des eaux du fleuve sont à l'origine de cette catastrophe qui a touché près de 40 000 ménages, avec plus de 320 000 personnes dans toutes les régions du pays. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est à Niamey, la capitale, que la situation est la plus inquiétante. Tous les quartiers riverains du fleuve sont inondés du fait de la montée jamais vue auparavant du niveau des eaux. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est rendu au quartier Saga pour s'en rendre compte personnellement.
Face à la situation, le gouvernement essaie d'organiser la solidarité avec les populations sinistrées. Nous avons conçu et nous sommes en train de mettre en œuvre un plan intégré de soutien aux populations, non seulement ici à Niamey, mais sur l'ensemble du territoire national. Donc je voudrais ici rassurer les populations sinistrées sur les dispositions qui sont en train d'être prises pour les reloger, pour les appuyer en alimentation, en vivres, en équipement, etc. Je voudrais qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, que le gouvernement est derrière elles et que le gouvernement va continuer à organiser la solidarité pour les soutenir.
La majorité des sinistrés se trouvent dans des écoles qu'elles doivent quitter dans 3 semaines maximum avec la reprise des cours. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, des incendies d'une ampleur historique continuent de ravager la côte ouest de la Californie à l'État de Washington, entraînant des milliers d'évacuations et d'importants dégâts. Claire Morin-Gibourg.
Alimentés par la sécheresse et des vents violents, plus d'une vingtaine d'incendies font rage en Californie. Près d'un millier de pompiers combattent le feu baptisé Creek Fire dans la région de Fresno, dans le nord de l'État, qui s'est propagé sur plus de 56 000 hectares. Dans le comté de Los Angeles, c'est un autre feu de forêt, le Bobcat Fire, qui a déjà dévasté plus de 4 000 hectares. L'incendie est toujours hors de contrôle, selon les pompiers, qui ont demandé aux habitants de se tenir prêts à évacuer. Des ordres d'évacuation ont également été lancés près de San Diego. Les incendies se sont propagés au nord de la Californie, dans l'Oregon et dans le centre de l'État de Washington. Un événement sans précédent, selon Kate Brown, la gouverneure de l'Oregon. Dans l'État de Washington, 9 incendies importants ont brûlé plus de 130 000 hectares en 24 heures, plus du double de la surface brûlée pour toute l'année 2019. Son gouverneur a dénoncé le changement climatique à l'origine de ces incendies d'une ampleur jamais vue auparavant.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Nigeria demande à un tribunal de Milan en Italie d'ordonner à Eni et HL de payer 1 092 milliards de dollars à titre d'avance immédiate pour les dommages-intérêts dans une affaire de corruption liée à l'achat d'un champ offshore à 1,13 milliard d'euros au Nigeria en 2011. D'après la justice, Eni et Shell ont acquis ce gisement pétrolier en sachant que l'essentiel des fonds de la vente serait reversé en pot de vin à des responsables politiques et à des intermédiaires, dont l'ancien ministre nigérian du pétrole, Dan Etete. Air Namibia prévoit de réduire de 50% les salaires de près de la moitié de ses employés qui sont en congé forcé depuis mars à cause du coronavirus jusqu'à ce que les opérations reprennent normalement. Cette stratégie devrait l'aider à remédier à la baisse des revenus dus à la pandémie. Air Namibia a besoin d'environ 477 millions de dollars pour rester à flot, mais le gouvernement ne lui a offert qu'un dixième de ce montant. Air Namibia exploite une dizaine d'avions et emploie quelques 800 personnes. Pour terminer, l'économie mondiale montre des signes de rebond après la grave récession causée par la pandémie mondiale de coronavirus, mais une reprise complète est improbable sans vaccin, a déclaré le Fonds monétaire international. Le FMI souligne que les gouvernements devraient continuer à soutenir les travailleurs et les entreprises, car la nature sans précédent de la crise pourrait donner lieu à une vague de faillites et de suppression d'emplois.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le parquet général égyptien va enquêter sur la disparition d'un trophée de la Coupe d'Afrique des Nations que l'équipe de football a remporté en 2010. La semaine dernière, la fédération a découvert que le trophée doré décroché par les pharaons en 2010 a disparu. Un ancien de l'équipe nationale, Magdi Abdel Ghani, a accusé Ahmed Hassan et Shawki Gharib, ex-joueurs et ex-entraîneurs de la sélection de 2010, de savoir où se trouve la coupe. Ces deux ont rejeté ces accusations. L'Égypte a été autorisée à conserver le trophée du championnat biannuel après avoir gagné 3 CANs consécutives en 2006, 2008 et 2010. Transfert, le stade Bressois a recruté pour 4 ans Steve Mounier. L'attaquant international béninois, 25 ans, revient ici en Ligue 1 après 3 saisons à Huddersfield, première puis deuxième division anglaise. Le montant du transfert est évalué par plusieurs médias à 5 millions d'euros. Huddersfield avait versé plus de 13 millions d'euros pour faire venir Steve Mounier de Montpellier en 2017. Le gardien de but international français Alphonse Areola a lui été prêté pour une saison avec option d'achat par le Paris Saint-Germain à Fulham. Le portier de 27 ans qui reste lié au PSG jusqu'en 2023 rejoint le club anglais promu en Premier League cet été. La saison dernière, Areola a été prêté au Real Madrid où il a disputé 13 rencontres, toutes compétitions confondues, avec le club espagnol. L'ex-international ghanéen et ancienne gloire de Premier League Michael Essien a rejoint le FC Nordjylland en première division danoise comme entraîneur adjoint. Il a accepté de faire partie du personnel d'encadrement du club pour la saison à venir avec le titre de joueur-entraîneur sous la direction de l'entraîneur en chef Flemming Pedersen, a indiqué le club dans un communiqué. Le milieu de terrain de 37 ans commence ce jeudi 10 septembre. Essien a joué à Lyon, Chelsea, à l'AC Milan ou au Real Madrid avant de s'engager en Indonésie puis en Azerbaïdjan. Tennis, le russe Daniil Medvedev, cinquième mondial, s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open en éliminant son compatriote Andrei Rublev 7-6, 6-3, 7-6 à Flushing Meadows. Dans ce duel fracticide entre deux joueurs qui se côtoient sur les cours depuis leur jeune année, Medvedev, 24 ans, n'a pas eu partie facile contrairement à ses tours précédents, mais il est resté le plus consistant. Ne se contentant pas de renvoyer les coups de massue de Rublev, 21 ans, il a aussi été plus agressif que d'habitude.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, l'opposition est divisée sur la participation ou le boycott du scrutin présidentiel du 18 octobre. Pour en savoir davantage sur les 12 candidats en lice, Eric Manirakidza a joint à Conakry le président de la Maison de la Presse et directeur du site Guinée News, Amadou Tam Camara.
Brièvement, il faut se dire qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont plus ou moins connus. Il y a évidemment le président sortant qui est connu. Il y a le leader de l'opposition, Sélou Diallo Diallo, qui est allé déjà en compétition avec Alpha Condé, donc qui est également connu. Mais également, il y a d'autres anciens ministres qui sont plus ou moins connus. Il y a Abdelkabele Camara, il y a Dr Ousmane Kaba, deux dames, deux anciennes ministres aussi, Makali. Le reste, ce sont des novices, disons.
Il y a eu une coalition qui combattait le troisième mandat de M. Condé. Finalement, l'opposition ne parvient pas à se mettre d'accord sur une ligne à arrêter.
Oui, c'est vrai que la position qui avait été celle de l'opposition lors du référendum et des élections législatives, cette position a quelque peu changé. Aujourd'hui, il y a l'opposition qui était réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution a quelque peu fissuré. Certains ont décidé d'aller aux élections. Il s'agit entre autres de Maître Kabele Camara, de Sélou Diallo Diallo et de Dr Ousmane Kaba, qui étaient tous membres du Front du FNDC. Par contre, d'autres ont gardé leur ligne. Il s'agit de Sidya Touré, de Lansana Kouyaté et également de Faya Milimono et d'autres. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'opposition n'a pas pu avoir une position, consensuelle sur la question. Cela fait que l'opposition va à rang dispersé pour cette compétition majeure.
Et quelle est la chance que l'opposition a pour freiner le troisième mandat de M. Condé?
Déjà, à mon avis, pour qu'il y ait un deuxième tour, il faut que ceux qui ne sont pas partis dans ces élections, à savoir ceux qui ont quand même un certain capital électoral, à savoir Sidya Touré et Lansana Kouyaté et Faya Milimono, doivent pouvoir donner des consignes de vote claires pour au moins un leader, afin qu'il y ait une chance d'avoir un second tour. À défaut, dispersés tels qu'ils sont, et je les vois difficilement arriver à amener le président sortant Alpha Condé à un deuxième tour, même si par ailleurs celui-ci a des difficultés dans son fief traditionnel, parce que le défi qui l'interpelle aujourd'hui, c'est de pouvoir mobiliser dans son fief traditionnel, puisqu'il y a beaucoup de déceptions là-bas, il y a eu beaucoup de promesses non tenues, ce qui aura un impact au niveau de la mobilisation de l'électorat en Haute-Guinée.
Vous parlez de M. Condé?
Absolument, oui.
Amadou Tam Camara est le président de la Maison de la Presse à Conakry, en Guinée.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le groupe de réflexion Africa Jom Center a publié un rapport qui dénonce la présidence à vie, la crise de l'état de droit et de la démocratie en Afrique de l'Ouest, surtout dans les pays francophones. Nanit Talani a joint à Dakar Alioune Tine, fondateur du groupe de réflexion Africa Jom Center.
Nous avons constaté de plus en plus ce qu'on peut considérer comme la crise de la démocratie et la crise de la sécurité. Ces crises multiples aujourd'hui qui sont en train de gangréner le climat politique et social un peu partout en Afrique de l'Ouest. Parce que quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, toutes les élections qui se sont déroulées ces 5-6 dernières années n'ont pas été des élections acceptées par tous. Toutes ces élections ont été contestées par l'opposition, surtout les élections présidentielles. Toutes ces élections aussi se déroulent et sont contestées parce que, un, vous avez un président qui contrôle pratiquement tous les organes, qui contrôle également aussi ce qu'on appelle les institutions administratives autonomes, les CENI, les Sénats, ce qui fait que le processus électoral est biaisé dès le départ. Donc, aujourd'hui, nous avons pratiquement une crise du suffrage universel qui peut être même déclencheur de crises beaucoup plus graves. Quand vous prenez, par exemple, le Mali, Tout ce qu'on est en train de vivre au Mali aujourd'hui, c'est à cause des élections contestées, c'est les législatives, c'est important. Le problème que nous vivons en Guinée aujourd'hui, c'est parce qu'on a préparé des élections pour changer la constitution pour pouvoir faire un mandat, le référendum et l'élection législative. Et la préparation de ces élections ont fait pratiquement plus de 50 morts en Guinée. Beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui ont été emprisonnés et donc beaucoup de violence et d'instabilité politique dans le pays. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara, après la mort de Gon Coulibaly, son ancien premier ministre, il a dit qu'il est candidat pour un troisième mandat, mais on a eu tout de suite 26 morts, beaucoup de violence. Et ensuite, vous savez, dès qu'il a l'intention de se présenter, vous avez des gens qui ont été en prison, beaucoup de députés de Guillaume Soro, Guillaume Soro lui-même inculpé, ça veut dire que dès que vous avez une ambition présidentielle et que vous êtes crédible, vous devenez un criminel. Donc, ils l'ont mis en prison. Gbagbo ne peut pas rentrer chez lui, ne peut même pas avoir un passeport pour un ancien président de la République, autant pour Blé Goudé. Donc, nous avons cette espèce d'instabilité qui s'explique par le fait de la crise profonde de l'état de droit, de la crise profonde également de la sécurité. Toute la bande du Sahel aujourd'hui, c'est les problèmes de sécurité que nous avons là-bas. La dégradation de la situation sécuritaire au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, sans parler maintenant tous les pays du bassin du lac Tchad qui sont plus ou moins menacés.
Pourquoi les pays francophones ont-ils du mal à ne pas respecter la limitation des mandats présidentiels?
Écoutez, parce que nous n'avons pas de véritable, dans certains pays, nous n'avons pas de véritable démocratie ou d'état de droit. C'est une espèce d'imposture démocratique qu'on a.
C'était Alioune Tine, fondateur d'Africa Job Center.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, les autorités affirment que les séparatistes anglophones ont volé des milliers de têtes de bétail aux éleveurs Mbororo depuis juillet, les forçant à déplacer leur cheptel à des centaines de kilomètres vers des zones plus sûres. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Bafia. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
Sous l'équerre-là, un éleveur Mbororo de 41 ans conduit un cheptel de plusieurs centaines de bovins paître dans le village francophone de Balamba, dans le centre du Cameroun, près de la ville de Bafia. Ce bétail appartient à 5 peuls Mbororo, éleveurs par tradition qui vivent principalement dans la région du nord-ouest du Cameroun. Sous l'équerre-là, affirme que les Mbororo fuient la région anglophone parce que les rebelles anglophones volent leur bétail.
Dans les régions comme Woum, les départements de Bouy, de Boyo, de Mézam, il n'y a aucun endroit où les combattants séparatistes n'ont pas volé les vaches des Mbororo. Lorsque les militaires patrouillent, vous les voyez rapporter des vaches qui ont été prises à la communauté Mbororo. C'est alors que la plupart des Mbororo ont transporté leurs vaches dans la région de l'ouest, dans la région du centre.
Le président de l'association culturelle et de développement des Mbororo, Jaji Manou Guidado, a lui aussi déplacé ses 400 bovins dans la ville de Bafia. Il témoigne que les rebelles ont volé au moins 3000 bœufs aux éleveurs Mbororo depuis juillet et confirme que les éleveurs ont déplacé environ 2500 bovins vers des villes francophones plus sûres comme Bafia, pour échapper aux rebelles.
Savez-vous pourquoi les éleveurs sont devenus une cible? C'est parce que ces combattants séparatistes ont rencontré les Mbororo et leur ont demandé de se joindre à eux pour empêcher l'administration de fonctionner. Et les Mbororo leur ont dit, non, nous sommes ici pour élever notre bétail et envoyer nos enfants à l'école.
Le ministère camerounais de l'élevage a déclaré que depuis le début du conflit en 2016, les rebelles ont saisi environ 300 vaches chaque année. L'armée camerounaise affirme que les rebelles semblent voler plus de bétail ces derniers temps en raison de l'insécurité alimentaire et pour les vendre au Nigeria pour financer leurs activités. Pour contrer les rebelles, l'armée affirme qu'elle a renforcé le contrôle le long de la frontière avec le Nigeria. Félix Ndjie Ewumbe est l'officier chargé d'aider les éleveurs de Bafoussam.
Nous les encadrons au quotidien.
Les séparatistes ont pris les armes en 2017 et veulent la création d'un État anglophone indépendant du Cameroun à majorité francophone. Selon les Nations Unies, les combats ont fait 3000 morts et contraint un demi-million de personnes à fuir leur maison.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les inondations frappant plusieurs villes africaines cette année. De Dakar à Douala, en passant par Niamey, Abidjan, Kinshasa et N'Djamena, les eaux pluviales ont causé des dégâts importants et fait des morts, laissant des populations en désarroi. Les experts mettent en cause les effets combinés du changement climatique et d'une urbanisation galopante et mal planifiée des villes africaines. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 septembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé qu'il rendrait des terres à certains agriculteurs blancs qui ont été expulsés de leurs terres sous l'ancien président Robert Mugabe. Les autorités cherchent ainsi à rassurer les fermiers noirs face à ce que certains craignent être une nouvelle réforme agraire. Reportage de Columbus Mavunga à Harare, repris ici par Lionel Gahima.
Heinrich von Pezold, fermier allemand, a perdu une partie de ses terres en 2001 dans le district de Mazoé, à quelques 100 km au nord de Harare. À l'époque, le gouvernement de Robert Mugabe avait adopté une politique radicale de réforme agraire en expropriant sans compensation des milliers de fermiers blancs. Maintenant, von Pezold veut récupérer ses terres en vertu d'un accord entre les gouvernements allemand et zimbabwéen pour protéger les investissements privés dans leurs pays respectifs, connus sous le nom d'accord bilatéral de promotion et de protection des investissements. Ce ressortissant allemand a porté plainte contre le gouvernement zimbabwéen au Centre international pour les règlements de conflits liés aux investissements. Ce tribunal d'arbitrage, basé à Washington, a ordonné au gouvernement du Zimbabwe de verser une indemnité à von Pezold. Ce dernier est prudemment optimiste après l'annonce faite par Harare de redonner des terres à certains fermiers blancs.
Le fait que le gouvernement reconnaisse ses obligations internationales est une étape très positive. Cependant, nous avons déjà eu de telles annonces et nous cherchons des actes et non des paroles. Nous souhaitons voir ce que fait réellement le gouvernement.
L'Union des agriculteurs commerciaux qui représente les agriculteurs blancs du Zimbabwe a refusé de commenter l'annonce faite la semaine dernière par le gouvernement. En juillet, le gouvernement du Zimbabwe a signé un accord avec le syndicat pour verser 3,5 milliards de dollars d'indemnisation aux fermiers blancs qui ont perdu leurs terres, même si on ne sait pas encore comment le gouvernement va trouver cet argent. Emiliana Duri, 63 ans, ancienne combattante zimbabwéenne, fait partie des fermiers noirs ayant reçu une partie des terres de von Pezold en 2001. Elle espère que la reprise des terres par le gouvernement ne va pas l'affecter.
Il serait douloureux que la terre pour laquelle nous nous sommes battus, qu'on me demande de préparer le terrain pour un blanc qui est parti. C'est vraiment douloureux. Je vais alors commencer à me demander pourquoi me suis-je battu? C'est pour la terre. Donc, je ne dois pas être déplacé, même pour une autre personne noire, car il n'y a personne supérieur à l'autre. Nous sommes tous égaux. C'est douloureux.
Le gouvernement zimbabwéen affirme que seulement 3% environ de ceux qui ont reçu des terres seront affectés. Le reste des fermiers blancs seront payés pour les aménagements réalisés sur leurs anciennes propriétés, mais ne vont pas récupérer leurs terres. Anxious Masuka est ministre de l'Agriculture.
C'est une proportion infime de bénéficiaires. La position du gouvernement est que le programme de réforme agraire est irréversible.
Le gouvernement souhaite plutôt que les agriculteurs se concentrent sur la préparation de la saison agricole 2020-2021 qui a commencé la semaine dernière avec la plantation de tabac. Les critiques du gouvernement disent que le secteur agricole du Zimbabwe, jadis épine dorsale de l'économie, est en chute libre depuis que Mugabe a confisqué les terres des agriculteurs commerciaux blancs et les a données à des fermiers noirs inexpérimentés comme Duri. Le gouvernement rejette ces critiques et attribue ce déclin à des sécheresses récurrentes dues au changement climatique mondial.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedunia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.